Bonjour tout le monde, on va peut-être commencer, même si, je ne sais pas, peut-être des gens vont nous rejoindre au fur et à mesure. On attendait un peu plus d'affluence, mais bon, c'est toujours, toujours aléatoire ce genre d'initiative. Donc merci aux gens qui sont présents pour cette sixième édition de ce qu'on a appelé les journées d'études syndicales, donc à l'initiative de Sud Éducation. Comme les années précédentes et comme l'année dernière, on va essayer d'orienter la discussion autour des mutations du travail qui seraient liées aux diffusions des logiques gestionnaires et managériales à l'université, avec peut-être un petit regard un peu plus aiguisé sur les questions de la diffusion de l'idéologie de l'excellence. Donc, on aura un propos tout à l'heure. Et pour éclairer en fait les mécanismes à l'œuvre et puis les implications sur l'organisation de l'institution, éventuellement sur les conditions de travail des agents, on a invité Audrey Haroche et Lionel Jacquot. Donc un grand merci à vous d'être là, d'avoir fait la route depuis vos contrées lointaines pour nous rejoindre dans nos contrées normandes. Donc Audrey qui est à gauche de Lionel qui est à gauche de Pauline. Qui est à gauche de moi. Donc Audrey donc est sociologue à l'université d'Oxford, Bruce, et chercheuse associée à Sciences Po. Donc tu vas intervenir toi sur le titre, c'est comme indiqué derrière, les initiatives d'excellence et leurs effets sur la profession académique, une restratification par le haut et par le bas. Donc voilà, la question éventuellement de l'excellence sera abordée ici. Et puis donc Lionel Jacquot, qui est professeur de sociologie au laboratoire Tétras à l'Université de Lorraine, lui il interviendra sur la managérialisation comme outil pour réformer l'institution, la fabrique d'une technobureaucratie à l'université. Donc à partir d'une recherche que tu as réalisée sur ton université, dont on dira plus tout à l'heure. L'idée des différentes interventions, c'est d'avoir une présentation de 30-45 minutes, voilà, autour de cette durée-là, et puis d'avoir un temps d'échange après avec l'assistance pour essayer de dégager éventuellement des pistes de réflexion, y compris des mois. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'avait présenté ou pensé les années précédentes, des pistes d'action pour les années à venir. Mais avant de leur laisser la parole, l'idée c'est qu'à chaque fois, ces dernières années, on essaie de faire un temps de restitution du travail mené par l'Observatoire des conditions de travail à l'Université de Caen, qu'on a lancé avec un certain nombre de collègues, je vais y revenir, donc en 2019-2020, et qui se base sur deux modalités d'enquête, la diffusion d'un questionnaire et une campagne d'entretien. Et là, on va surtout essayer avec Pauline de faire une restitution sur la question, enfin sur un certain nombre d'entretiens et de traits qui émergent des entretiens réalisés avec les collègues qui ont bien voulu répondre à cette invitation. Et pour le dire vite, c'est d'où le titre l'université en perte de sens point d'interrogation, c'est que on voit bien émerger en fait dans les discours de ces enquêtés un sentiment de perte de sens au travail, à l'université. Mais ce qui ressort aussi, peut-être même surtout dans ces entretiens, ce sont les stratégies individuelles et collectives qui sont déployées par les collègues pour faire face justement à ces mutations de l'institution et tenir au travail d'un certain point. Donc pas tant on insistera sur le constat d'une perte de sens, mais plutôt sur comment on fait avec pour se maintenir en activité. Quelques mots quand même pour rappeler d'où vient cet observatoire. On l'a déjà fait à plusieurs reprises et on pourrait y revenir si ça nécessite des précisions. Mais c'est pour un peu planter le décor. Cet observatoire est né il y a quelques années donc, à la fois sur un constat un peu général d'avoir le sentiment des difficultés, une dégradation généralisée, toutes catégories confondues, des conditions de travail, et puis aussi des outils institutionnels peu adaptés pour montrer en fait cette dégradation des conditions de travail, notamment sur la question des facteurs de risque psychosociaux. Donc plus facilement, on peut, les TMS, les troubles musculosquelettiques, enfin les atteintes physiques, on peut les documenter, mais sur la partie plutôt la santé mentale, on avait l'impression qu'il y avait une sorte de vide, et que ça pouvait être intéressant de mettre l'accent sur un travail scientifico-militant sur ces questions-là. Et puis autre élément en fait qui correspondait au contexte de l'époque, c'était un durcissement des rapports avec l'ancienne présidence de l'université qui avait à travers un certain nombre de démarches rendu plus difficile voire limité l'activité des représentants du personnel dans ce qu'on appelait à l'époque le CHSCT, donc comité hygiène, santé et conditions de travail. Santé ou sécurité ? Sécurité. Et donc, face à cette entrave du travail syndical, on s'était dit qu'il fallait qu'on contourne pour continuer en fait à faire de la prévention sur ces questions-là. Et on, voilà, on, l'idée a émergé dans les discussions un peu informelles ces dernières années de monter en fait cet observatoire un peu sur le modèle de ce qu'avait pu être mis en place par Sud PTT à France Télécom à l'époque de justement des suicides dans l'entreprise. Alors, ce qui nous permet en fait cet observatoire, c'est de rendre visible justement cette dégradation des conditions de travail, tout statut confondu. On insiste, hein, parce que les travaux scientifiques mettent souvent l'accent, les chercheurs mettent souvent l'accent sur leur propre profession, sur la profession des enseignants et chercheurs, et souvent mis les collègues BIAT se sont invisibilisés. Et donc l'idée avec cet observatoire, c'est de tenir les deux bouts. Hein, on est un syndicat aussi intercatégoriel, et on est dans une université qui fonctionne de manière intercatégorielle, donc il nous paraissait important de maintenir ce regard-là, cette dégradation des conditions de travail et de la rendre visible pour l'ensemble du personnel. Et ce qui permettait aussi, avec cette enquête-là, d'essayer de prendre le contre-pied, justement, d'un certain nombre des indicateurs de performance qui font fonctionner nos établissements, et donc d'arriver avec, éventuellement, d'autres manières d'envisager l'université, et pas seulement avec ce regard-là très quantitatif et lié à la performance. Et puis surtout l'idée c'était d'éventuellement utiliser cet observatoire et la diffusion des résultats comme un moyen en fait comme un effet miroir, c'est-à-dire que de réutiliser après les résultats obtenus pour les renvoyer après du côté des agents et agentes pour leur montrer, regardez en fait ce que vous vivez à travers l'observatoire, vous n'êtes pas les seuls. Donc c'était une manière aussi de briser l'isolement et les singularités de composantes, de montrer qu'il y avait vraiment tout statut, encore une fois, toutes composantes confondues, des formes en fait de vie au travail qui étaient rendues difficiles, et notamment par l'organisation du travail. Donc ça, c'était un peu ce qui motivait la constitution de cet observatoire. Il y avait d'autres aspects, mais je ne vais pas vous endormir avec ça. Juste pour préciser que l'observatoire donc se mobilise les outils des sciences sociales, scientifiques, pour documenter les conditions de travail, que c'est aussi une manière d'armer en fait l'activité syndicale, mais que on n'en fait pas l'alpha et l'oméga en fait de notre travail syndical. Ça, c'est un outil supplémentaire du répertoire d'action, mais ça se substitue pas à tout le travail de terrain qu'on essaie de faire au quotidien. Alors l'observatoire est composé de, pour l'instant, 6 enseignants-chercheurs, chercheuses, dont un certain nombre sont dans la salle, et d'autres à venir peut-être. Plus ou moins spécialisés sur les méthodes qualitatives ou quantitatives, sur la sociologie du travail ou non, mais voilà, il y a une sorte d'articulation de différentes spécialisations qui permet, me semble-t-il, d'avoir un regard plus aiguisé sur ces questions-là. Je le disais tout à l'heure, on utilise deux méthodes, questionnaire et entretien. Là, on a relancé le questionnaire il y a quelques semaines, donc on n'a pas encore les résultats. La première version a été envoyée, peut-être certains l'ont rempli en 2020, avec plusieurs relances. On avait eu, en gros, 405 réponses exploitables sur 2600 agents, en gros, l'université, ce qui faisait un taux de réponse de 15%, donc semble-t-il assez suffisant pour ce qu'on voulait documenter à cette époque-là. Et puis deuxième modalité, campagne d'entretien qu'on a donc adressée encore une fois via les listes institutionnelles données aux organisations syndicales. Et donc on avait, là on doit être à un peu plus d'une quinzaine d'entretiens réalisés, pas tous retranscrits parce que c'est quand même du boulot, sur ces deux campagnes 2022-2023. Et c'est surtout là-dessus qu'on va se baser sur cette... sur cette restitution là ce matin, enfin cet après-midi. Et donc notamment plus spécifiquement sur 6 enquêtés qui sont BIAT, enseignants détachés dans le secondaire et maîtres de conférences, ou plutôt maîtresses de conférences en l'occurrence. Donc là on va surtout s'appuyer sur 6 de la quinzaine d'entretiens qu'on a pu avoir ces dernières années. Alors avant d'aller justement et laisser la parole à Pauline sur les stratégies envisagées ou mises en place par les collègues vis-à-vis justement de cette dégradation des conditions de travail, moi je vais essayer de juste en quelques mots de donner un peu quelques éléments qui reviennent dans les discours et les entretiens autour effectivement de cette déstabilisation de l'activité ou de cette perte de sens au travail. Donc il y aurait en gros quatre axes, mais qui sont assez connus, mais c'est pour ça que je vais peut-être pas forcément m'étendre plus avant là-dessus. Juste pour dire que déjà dans le questionnaire, on avait eu pas mal de retours de gens qui manifestent, qui indiquaient de différentes manières que le travail tel qu'ils le vivaient avait des implications sur leur santé, y compris sur leur vie personnelle, familiale, de tout un tas d'aspects. Donc on a eu pas mal de retours. Et là, dans le questionnaire, et là dans les entretiens, c'est un peu la même chose. Là j'ai deux exemples, hein, un exemple Biat et un exemple enseignant. Abiat qui nous disait je suis un peu au bout du rouleau, franchement je suis au bord de la dépression. Une enseignante du secondaire attachée dans le supérieur disait j'ai quand même 2-3 collègues qui me disent j'aimerais bien avoir le Covid, enfin en sont presque à vouloir se blesser, avoir une fracture pour ne pas venir travailler. Donc des manières de présenter en fait le rapport au travail qui poussent les gens en fait à dans leur retranchement et éventuellement à les mettre à se mettre en retrait. Donc là, des manifestations de discours assez caractéristiques de ces trajectoires rencontrées. Alors, au-delà de ce constat-là, il y a 4 axes qu'on a identifiés. Le premier, qui est assez classique et qu'on retrouvait dans le questionnaire, c'est et qui est partagé par l'ensemble des agents, peut-être un peu plus de manière aiguisée, en tout cas dans le retour des questionnaires du côté des enseignants, c'est l'intensification du travail, qui est vraiment une des caractéristiques importantes et qui revient dans le propos des enseignantes qu'on a pu rencontrer. Une enseignante là qui dit effectivement qu'elle constate une cadence élevée tout au long de l'année. J'ouvre les guillemets. À la fac, quand on croit que le semestre il est terminé, là on a toujours de l'administratif, des réunions, des oraux. C'est vraiment la période dans laquelle on est. Les cours sont finis, mais faut continuer à pédaler. Une autre enseignante à l'IUT, on est quand même beaucoup sollicité sur les tâches administratives, les tâches d'encadrement des étudiants, les tâches administratives. Donc voilà, c'est tout un travail qui est périphérique. À ce qu'on appelait le cœur de métier, c'est-à-dire l'enseignement, et qui, cette collègue disant, en fait, moi je dirais que je suis à 60% de l'administratif, 40% de la pédagogie dans mon activité à l'année. Donc on voit bien une intensification du travail, une décadence élevée toute l'année, mais aussi une charge de travail qui devient de plus importante d'un point de vue administratif. Ce qu'on a pu noter aussi dans les entretiens, donc deuxième axe, c'est pour les collègues Biat de l'intensification, mais aussi parfois en fait des retours sur un appauvrissement de leur activité. Certains collègues qui nous ont dit moi j'ai l'impression, voilà, on m'enlève des tâches, j'ai l'impression d'être dans un placard. Donc c'est les termes qui ont été employés. Et ce qui semble revenir, c'est l'utilisation d'un certain nombre de nouveaux logiciels sans formation, imposés verticalement, sans savoir les besoins réels des collègues qui font le travail pour lequel ils sont recrutés à l'université, et qui complexifie, voire appauvrit leur travail. Là, un collègue qui est dans un service, notamment central, agent de catégorie C, nous dit « Ce logiciel, c'est archi-buggé. Ce n'est pas du tout ce dont on a besoin. Ce n'est pas du tout pertinent. Je perds énormément de temps sur ces applications. Et c'est très, très pesant, je vous le jure, nerveusement, parce que c'est hyper lourd. On a l'impression de travailler sur le Minitel, quoi. C'est vraiment hyper lourd. » Donc on voit bien à quel point, en fait, là, on a non pas forcément une intensification du travail, mais un travail qui perd de son sens parce qu'il est... On doit faire tourner des logiciels qui ne sont pas en adéquation avec le travail qui nous est demandé. Troisième axe qui revient dans les discours et qui est peut-être un peu plus proprement lié au statut des agents BIATS à l'université, notamment ce sont les rapports hiérarchiques. Et là, une des collègues qui dit justement avoir été mise dans un placard nous dit que quand elle a essayé en fait d'en parler avec son supérieur hiérarchique, ça a été un mur. Alors elle nous dit « Mon supérieur n'explique rien du tout. Il nous reçoit entre deux portes, un quart d'heure top chrono. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Si on lui dit, on a essayé de lui expliquer comment ça se passe exactement, la charge de travail et tout. Mais non, lui, il est coincé dans son schéma de pensée. Il n'écoute absolument pas ce qu'on lui dit. » Donc l'idée de faire remonter les choses auprès de son supérieur ou de sa supérieure et d'avoir un mur. Et on a un autre rapport qui a émergé du côté des agents BIAT et un rapport pathogène avec la hiérarchie qui est d'une autre nature, qui n'est pas là sur l'absence d'écoute ou l'autoritarisme, qui est sur un caractère qu'on avait qualifié d'erratique de l'emprise de la direction sur les agents. Lui disait, en fait, on a des périodes où on la voit pas, et puis des périodes où c'est, il dit, sur sollicitation, 10, 15 fois par jour. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement, tout est fait à la dernière minute. Et puis quand la direction n'est pas là, évidemment, même si c'est à la dernière minute, elle refile le travail. Donc un encadrement qui ne se fait pas autoritaire, mais qui se fait ponctuel et très pressant, et qui surveille in fine le travail qui a été réalisé en dernière instance. Ce qu'on a pu voir aussi émerger plutôt du côté enseignant, c'est des hiérarchies informelles, c'est-à-dire que le statut ne permet pas le rapport hiérarchique que connaissent le personnel BIAT, mais notamment les deux enseignantes qui travaillent pour certaines en IUT font valoir effectivement des rapports peut-être pas hiérarchiques, mais de domination sur un certain nombre de dossiers, notamment sur les questions de politique d'emploi ou de répartition des enseignements, d'avoir subi au cours de leur carrière des moments de mise à l'écart, et notamment, encore une fois, par des enseignants, donc plutôt des hommes, et avec des carrières peut-être plus anciennes. Donc des rapports hiérarchiques qui peuvent être, ou des rapports de pouvoir, si on veut englober plus large, qui deviennent pathogènes ou sources de tension dans les composantes, et qui émergent de ces entretiens. Et puis, dernier élément, et je vois que j'ai été un peu trop long, et peut-être celui qui parle aussi, puisqu'il correspond en fait à l'idée qu'on se fait de l'université, c'est le quatrième axe qu'on a englobé sous le titre « Désillusions professionnelles et conflits de valeurs ». Ce qu'on avait pu voir émerger de manière très claire dans le cadre du questionnaire, c'était l'absence de reconnaissance de l'institution. Là, on avait des taux très élevés de réponses où on demandait si, ça c'est un des items du la grille d'analyse qu'on utilise, hein, c'est est-ce que vous avez des formes de reconnaissance de l'institution. Et là, on a des taux très élevés en fait de non ou pas du tout de l'institution, toutes catégories confondues. On avait ce sentiment-là. Donc ça, c'est une des caractéristiques notables en fait de la perte de sens au travail, c'est-à-dire de pas sentir reconnu dans le travail qu'on fait. Mais une autre dimension qui est liée et qui émerge très clairement en fait dans un certain nombre d'entretiens, c'est justement d'avoir eu des désillusions sur ce qu'on se faisait comme image, ou ce qu'on voulait voir à l'université, à la fois comme endroit où on pouvait travailler, évoluer professionnellement, mais aussi comme idée d'université dans nos sociétés. Et c'est là où on voit effectivement émerger la problématique des conflits de valeur. Donc là, j'ai deux exemples là de collègues qui ont pu nous dire ça lors témoigner de cet ordre-là dans les entretiens. Donc une enseignante qui dit « Je pense que le rôle de l'université, et ça disparaît de plus en plus, c'est aussi d'avoir ce côté érudit, mais ça n'a pas de valeur sur le marché du travail. Et pourtant, moi, j'ai vraiment l'impression que quand je fais des cours, c'est au moment où je commence à lancer des choses qui n'ont pas forcément un lien avec mes cours, qui sont de l'ordre de la culture générale, ou qui éveillent la curiosité citoyenne des étudiants, qu'en fait, on arrive aussi à les intéresser, plus que par un savoir pratico-technique. » Donc là, on sent bien aussi là une forme de déception dans l'appauvrissement des contenus, le rapport avec les étudiants, en lien effectivement avec la mutation de l'université, mais aussi, comme elle le dit, du marché du travail. Donc elle finit en disant, après ça c'est sa formule, hein, à un niveau je me demandais à quoi ça sert parfois de nous recruter à Bac+10 pour faire des tableaux Excel. Bon, c'est une manière un peu à l'emporte-pièce de témoigner cette perte de sens au travail. Et puis un autre collègue, un agent BIAT, qui fait état effectivement dans un premier temps, d'un sentiment effectivement au regard de sa trajectoire professionnelle, de son diplôme et des missions réalisées qui ne correspond pas en fait au poste qu'il devrait occuper, que l'université ne s'y intéresse pas. Mais il va plus loin, lui, en allant vraiment sur la question politique et éthique, et dit, pour des raisons qui sont, comment dire, éthiques, un choc de valeur avec mes supérieurs hiérarchiques, ça a été l'élément fondamental. On a été aussi, d'un certain point de vue, les architectes d'une perte de substance au niveau de certaines composantes. Et donc on voit bien dans l'activité, le regard porté en fait sur ce qui est demandé, et notamment dans les chaînes hiérarchiques, qu'il y a des conflits de valeurs qui font qu'on est obligé, en tout cas les collègues, ce collègue en particulier, d'agir pour trouver soit un contournement de ce rapport hiérarchique, soit une éventuelle porte de sortie, voilà, des éléments sur lesquels Pauline va revenir.
Merci. Et donc, charge à moi, du coup, face à ces constats de dégradation des conditions d'exercice des différents métiers et du travail à l'université, d'essayer de vous montrer comment on a documenté les techniques les stratégies, je ne sais pas si le terme est bon, mais en tout cas les formes d'adaptation individuelle et collective qu'engage le personnel pour tenir au travail, on l'a formulé comme ça. Et évidemment, de ce point de vue-là, les entretiens venaient vraiment éclairer et compléter ce qu'on avait eu dans le questionnaire, et ça permettait d'accéder beaucoup plus à ces formes d'adaptation qui sont aussi ambivalentes, qui sont aussi complexes en fait, et à rapporter à l'enjeu des trajectoires individuelles et des socialisations professionnelles. Avant de vous les déplier un peu, ces adaptations et ces résistances, je voudrais commencer par dire, ce qui est un peu la conclusion, mais c'est pas grave, je le dis quand même tout de suite, c'est qu'à rebours d'un discours assez entendu dans pas mal d'institutions, en dehors de l'université aussi, sur le désengagement au travail face à cette perte de sens, nous on a plutôt entendu des agents et des agentes qui cherchent des solutions pour tenir, qui sont quand même engagés pour se maintenir dans leur activité et retrouver ce sens au travail. Et donc, pour tenir, on a identifié des types d'adaptations qu'on pourrait qualifier d'individuelles et puis des adaptations un peu plus collectives, soit à l'échelle des équipes de travail, soit à l'échelle syndicale. Et donc, je vais les présenter dans ce sens-là. Donc, commencer par des adaptations et des résistances. Alors, peut-on parler de résistance, ça pourrait être discuté, mais en tout cas, voilà, des formes d'adaptation individuelles. Effectivement, ce qu'on a observé dans les entretiens qu'on a analysés, et puis même dans ceux qu'on a menés, mais pas encore complètement analysés, c'est une très grande variété d'aménagements individuels pour tenir au travail, bien souvent et plutôt souvent en se maintenant dans son poste, même si, je vais y revenir, l'exit, le fait de partir, de muter, d'avoir une mobilité, est aussi parfois convoqué dans les discours. Bien sûr, ces aménagements et les conditions de possibilité de ces aménagements dépendent beaucoup du groupe professionnel d'appartenance, dépendent beaucoup de la place dans la division du travail. Ce n'est pas du tout les mêmes en ce qui concerne les GAD, c'est les enseignants et enseignantes chercheurs-chercheuses. Effectivement, bon, pour plein de raisons, je pense que tout le monde est à l'université, donc tout le monde les visualise assez bien, mais notamment des enjeux de contrôle hiérarchique du travail, d'autonomie au travail, qui ne sont pas les mêmes, et à l'inverse, des enjeux de possibilité de mutation qui sont aussi un peu différenciés en fonction des postes. Donc sur ces formes d'adaptation individuelle, on va s'arrêter plus précisément sur trois formes d'adaptation retenues par certains et certaines agents et agentes. Donc l'exit, en tout cas, je vais le préciser, mais la possibilité de se dire qu'on pourrait peut-être partir, parce que c'est plus compliqué que de partir vraiment. L'attachement, l'idée d'attachement au service public et aux enjeux relationnels du travail. Et puis le fait d'essayer d'aménager ou de changer ou de jouer sur le contenu concret de son travail. Donc premièrement, on a quand même quelques cas où quitter le poste est envisagé, soit par des mutations internes, soit parfois même en quittant l'université. Déjà dans le questionnaire, on avait eu ça, on avait eu 44% des répondants répondantes qui avaient affirmé déjà avoir limité leur engagement professionnel et convoqué cette idée d'un horizon lointain de possible sortie. En réalité, c'est assez peu mis en œuvre par les enquêtés qu'on a rencontrés. Alors évidemment, nous, on les rencontre, ils sont titulaires à l'université. Donc on n'a pas accès évidemment à ceux qui sont partis ou qui sont réellement, qui sont partis dans une autre fonction publique ou voilà, qui auraient fait autre chose. Cet exit-là peut prendre là aussi des formes multiples. On a des demandes de mutation interne. Il y a 27% du personnel qu'on avait interrogé en questionnaire déjà qui avait demandé des mutations. Et puis finalement, la part de celles et ceux qui ont effectivement muté, c'est seulement 10%. Donc, pourquoi je dis ça et pourquoi je reviens au quanti, mais c'est juste pour dire aussi que cet exit-là, c'est parfois plutôt une rassurance pratique ou en tout cas, voilà, un horizon qu'on convoque sans forcément pouvoir être mis en œuvre. Selon l'idée formulée par des enquêtés, notamment là, un enquêté qui nous dit « on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas forcément ce qu'on gagne ». Et il est en grande souffrance dans son service actuel. Mais il dit pourtant, quand je vois l'état des autres services, je me dis, il va falloir choisir entre la peste ou le choléra. Et donc, de fait, est-ce que ça vaut bien le coup de décider de muter? Et avoir peur de perdre ce qu'on a, c'est aussi avoir peur de perdre une certaine hiérarchie. En tout cas, des fois, des rapports hiérarchiques qui sont appréciés. Autre situation là, d'une collègue qui nous dit, c'est difficile d'avoir un responsable hiérarchique aussi à l'écoute. On sait ce qu'on perd, mais pas forcément ce qu'on gagne en mutation. Et donc elle dit aussi que comme du fait de la structure même de son service, elle pense aussi que son chef va finir par muter et que là elle sait pas bien comment dans son service ça va pouvoir être géré. Et puis plus rarement bien sûr, pour plein de raisons, l'exit peut se matérialiser par le souhait de quitter la fonction publique. Alors évidemment, c'est vraiment plutôt convoqué comme des horizons plus difficiles à mettre en œuvre et formulés comme des horizons plus difficiles à mettre en œuvre, notamment du fait des conditions d'emploi et des conditions salariales. Par exemple, une enseignante dit « Là, je suis bien au chaud à ma place, je songe à une sortie, mais je ne sais pas trop comment. » Ou un personnel BIAD dit « Voilà, une solution radicale, donc il qualifie de radicale, c'est de changer de métier. » Mais j'ai un réflexe assez bourgeois, je paye un appartement et je ne me vois pas diminuer mon salaire et perdre les conditions d'emploi. Donc évidemment, ça c'est difficile parce que donc il y a ce statut, ce poste de fonctionnaire dont l'accès a souvent aussi été difficile et souvent marqué par des trajectoires de précarité antérieure. Et puis plus globalement, mais ça c'est un peu tarte à la crème de le dire, mais quand même, c'est aussi... on est inégaux, enfin le personnel qu'on a rencontré est inégal sur le marché de l'emploi et donc en termes de niveau de diplôme, de qualification, de possibilité en fait de partir, il y a des positions qui sont plus ou moins favorables pour envisager de quitter la fonction publique. Deuxième type d'adaptation individuelle, c'est de tenir, de s'accrocher en valorisant surtout les dimensions relatives à l'attachement au service public. Et ça, c'est vraiment très fort chez l'ensemble des enquêtés rencontrés, valoriser la dimension relationnelle du travail, très clairement. Alors, cette dimension relationnelle, elle est ambivalente, et ça a été largement documenté par la sociologie du travail, et c'est vrai aussi donc à l'université, c'est-à-dire qu'elle est aussi source de pénibilité, très clairement, mais elle est aussi source de gratification, notamment symbolique, et elle permet de déployer, ou en tout cas de faire corps, enfin d'incorporer un ethos du service public qui est plutôt valorisant dans les identités professionnelles. Alors, chez les agents et agentes BIAT, ce qu'on a rencontré, le service aux usagers est valorisé dans le rapport aux étudiants et étudiantes. Mais on a aussi, à l'heure actuelle, pas beaucoup rencontré de personnel de scolarité. Ça, c'est des choses qu'on voudrait continuer. Enfin, on pourra en discuter dans la discussion, mais c'est aussi des choses qu'on voudrait essayer d'approfondir. Mais dans tous les cas, en fait, même dans des services où on est moins en contact avec le public étudiant, c'est le rapport aux collègues et le fait d'accompagner les collègues ou de répondre aux demandes des collègues qui est valorisé. Donc l'aspect relationnel du travail est même aussi parfois décrit sous le mode de l'action sociale ou du soutien psychologique aux collègues comme quelque chose de positif et de valorisant. Et donc il y a un collègue par exemple qui dit « En fait, j'accompagnais une collègue surtout pour réduire ses angoisses par rapport à l'outil en question, mais aussi par rapport à ses collègues. Donc il fallait que je sois à l'écoute, je patiente, j'explique les choses, je l'accompagne doucement. Et en fait, ça fait partie des situations où j'accompagne aussi psychologiquement. Et donc ça, c'est aussi un relationnel qui est valorisé dans l'ensemble des entretiens. Et puis, du côté du personnel enseignant, ça se joue surtout dans la relation aux étudiants et étudiantes. Et donc, là encore, hein, loin d'un désengagement dans le travail, on observe plutôt chez des enseignants et enseignantes un très fort investissement dans la relation aux étudiantes et étudiants qui constitue la source principale de satisfaction au travail. Je cite par exemple une maîtresse de conférence en IUT qui dit « J'aime bien être au contact des étudiants, j'aime bien enseigner sur les étudiants de première, deuxième année, en début d'études supérieures, j'aime bien accompagner les étudiants. Quand je vois qu'ils comprennent quelque chose, ça me rend heureuse. Après, ça n'arrive pas tous les jours, mais vraiment, je sens bien qu'il y a quelque chose que j'aime là-dedans. » Alors, c'est un investissement qui est, je disais, le relationnel, il est aussi source de pénibilité, c'est-à-dire qu'il contribue à la démultiplication des tâches aussi. Et il constitue bien souvent, ce qu'a rappelé Mathieu tout à l'heure, une charge de travail supplémentaire. Mais cette modalité du dévouement à l'étudiant, c'est aussi décrit comme une norme professionnelle à atteindre, chez ces professionnels. Et d'ailleurs, elle regrette, l'ensemble des enseignantes qu'on a rencontrées regrettent aussi que ce travail à destination des étudiants soit finalement peu pris en compte dans la gestion des carrières d'enseignants et enseignantes. Maîtresse de conf dont je parlais à l'instant dit on n'est pas du tout reconnu pour ce type de travail. On peut être un très bon enseignant ou un très mauvais enseignant, ça ne change rien du tout. Ma carrière ne va pas décoller pour autant. Et puis troisième type d'aménagement, voilà, qu'on a codé comme des aménagements individuels, c'est essayer d'aménager l'organisation de son travail, le contenu même de son travail. Donc d'essayer de, par rapport aux prescriptions institutionnelles, celles qui émanent notamment des fiches de poste, hein, ou de la hiérarchie, de hiérarchiser différemment ses tâches, de hiérarchiser différemment ses missions et d'essayer de réorganiser le contenu du travail. Ça, cet aménagement, il est rendu possible par le sentiment qui est assez partagé quand même par l'ensemble des enquêtés d'une relative autonomie dans le travail, alors plus encore dans le personnel enseignant, mais globalement, d'essayer d'organiser ses tâches dans une une configuration qui semble possible, pour les personnes. La collègue maîtresse de conférence dont je parlais à l'instant, donc, qui valorise fortement son activité d'enseignement, elle dit qu'elle a décidé de se concentrer sur cet aspect-là du travail et d'essayer de transformer les hiérarchies professionnelles. Donc elle se présente en disant « moi je suis enseignante », sans faire référence à l'activité de recherche, et en disant qu'elle se concentre sur son activité d'enseignement, en précisant bien sûr « moi j'ai la chance d'avoir quand même, ça fait partie des bons côtés du travail dans lequel je suis, j'ai une assez grande liberté dans l'organisation de mon temps de travail, je peux travailler là, je peux travailler chez moi, enfin vous savez ». Et puis, progressivement, depuis quelques années, j'avoue que je me garde des temps où je ne travaille pas et où je fais autre chose. Et puis, pour d'autres, plus contraints, moins d'autonomie professionnelle, les aménagements de l'organisation du travail vont surtout relever d'adaptation dans la gestion des échanges, essayer de cloisonner les temps dédiés au courriel, par exemple, hiérarchiser, enfin, réorganiser le temps autour de la messagerie, ne pas consulter là aussi c'est un peu tarte à la crème ou un peu béaba, mais ça a été dit comme des enjeux d'adaptation, ça a été décrit comme tel, pas consulter sa messagerie sur des temps extérieur à l'université, ne pas la connecter à son smartphone, ne pas communiquer son numéro personnel à la hiérarchie, voilà. Donc des aménagements qui sont évidemment d'autant plus cruciaux quand les relations de travail sont dégradées et quand le contexte de travail est dégradé. Par exemple, on a rencontré un personnel qui nous dit, qui est dans un contexte très dégradé avec sa hiérarchie et qui, parlant de sa supérieure hiérarchie, dit « déjà, je l'ai bloqué sur mon téléphone personnel, j'ai supprimé mon calendrier numérique professionnel du sien, donc elle n'a plus accès à mon emploi du temps, si elle a quelque chose à me demander, elle vient me voir ». Et puis enfin, dernier registre un peu dans ces adaptations individuelles, c'est aussi des entretiens qui nous ont aussi permis de voir des stratégies qui reposent sur des pratiques de loisirs ou des pratiques de santé ou de ce qu'on peut coder un peu vite de développement personnel extérieur à l'université, mais qui sont en fait réintroduites dans la sphère professionnelle. Essayer de réintroduire de la méditation, essayer de diffuser aussi à l'échelle des équipes, etc. Je suis trop longue, je pense, je détaille trop. Ces adaptations, évidemment, là encore, je le précise avant de passer aux adaptations plus collectives, c'est qu'elles dépendent de la place dans la division du travail des agents-agentes. Vraiment, il y a cet enjeu d'autonomie et de capacité, enfin de possibilité à organiser son temps de travail. Elles dépendent aussi, au-delà de la place dans la division du travail, du parcours antérieur. C'est-à-dire que celles et ceux qui sont passés par pas mal de services, qui ont écumé pas mal de services, qui ont essayé en fait dans d'autres postes de muter pour tenir, etc., disent aussi à quoi bon puisque je sais bien, j'ai connaissance que l'herbe ne sera pas plus verte ailleurs. Et donc ça aussi, ça produit des possibilités de tenir qui sont différenciées en fonction de la trajectoire antérieure dans l'institution ou dans d'autres institutions antérieurement. Dans tous les cas, chez l'ensemble des agents et agentes rencontrés, on voit plutôt des volontés, en fait, l'ensemble de ces aménagements-là montre plutôt des volontés de se réapproprier le travail dans ses dimensions les plus valorisées, notamment autour de cet enjeu de service public, à rebours donc de ce que je disais tout à l'heure, mais d'une espèce de petite musique qu'on entend sur le désengagement au travail des individus. Et puis deuxième type d'adaptation sur lesquelles je vais essayer de m'arrêter rapidement, mais c'est des formes de résistance qui nous semblent un peu plus collectives, puisque donc les conditions de travail dégradées qu'on décrit là et les mutations de l'université donc évoquées en introduction, elles conduisent aussi parfois les agents à tenter de construire les conditions d'une action collective. Alors on est rarement sur des conflictualités, enfin voilà, là aussi je ne vous apprends rien sur des conflictualités directes avec le ministère par exemple, les agents rencontrés, ce sont quand même, alors on les rencontre aussi, enfin bien sûr, mais je crois que Mathieu l'a dit, et je suis désolée si tu l'as dit, on les rencontre aussi souvent dans des moments où ils vont, enfin souvent la manière dont on a venir répondre à la campagne d'entretien, c'est aussi signaler des situations où ça ne va pas très bien. Enfin, pas toujours, mais souvent, on a des enquêtés qui veulent aussi signaler des situations où ça ne va pas très bien. Et donc, évidemment, dans nos enquêtés, ils se sont questionnés, et puis on a posé la question, mais globalement, ils et elles se sont questionnés sur les possibilités d'avoir des leviers institutionnels en interne ou des leviers syndicaux pour infléchir une réalité professionnelle dégradée. Alors d'abord, il y a des résistances collectives qui se situent à l'échelle de l'équipe de travail, explicitement, Alors, pour les biates qui sont insérés dans des, je le disais, dans des rapports hiérarchiques plus contraints, il y a un recours à l'encadrement de proximité quand il est décrit comme un encadrement de confiance. Et effectivement, parfois, les enquêtés nous ont décrit une sorte de protection exercée par l'encadrement intermédiaire, même si... en tout cas, on a une enquêtée qui dit aussi que c'est très dur pour son, qu'il y a beaucoup d'empathie pour son chef direct qu'elle trouve un peu entre le marteau et l'enclume. Par ailleurs, on a aussi observé des situations où les agents-agentes engagent des demandes collectives à des échelons supérieurs et notamment au DRH. Et donc, demandes collectives qui émanent des équipes, qui demandent à être reçues, qui demandent à ce qu'on tiennent compte de leur situation, demande collective qui aboutissent rarement à des formes de soutien d'accompagnement qui permettent d'améliorer la situation de travail. Et puis bien sûr, plus globalement, c'est le soutien du collectif de travail qui apparaît crucial du côté là, des équipes que j'ai en tête, là, dont je parle. Et puis enfin, côté enseignant-enseignante, là aussi, il y a eu des leviers institutionnels qui ont été mobilisés. Mais ce que décrivent les enseignantes rencontrées, c'est bien sûr, là encore, l'étroitesse des marges de négociation. Je cite là, par exemple, une enseignante Prague qui dit « On est dans un système, finalement, où on a l'impression de ne pouvoir décider de pas grand-chose. Et enfin, à la limite, qu'on ne puisse pas décider, mais que quand on fait des demandes, c'est rarement satisfait. On nous incite à créer des commissions, des groupes de réflexion pour voir, au final, que notre avis, on n'en tient pas trop compte. » Donc ça, c'est une frustration très forte qui s'accompagne parfois d'une forme de mépris de la part de la direction et qui là peut générer de la colère et revêtir une dimension conflictuelle à l'échelle des équipes, mais aussi des dimensions conflictuelles qui viennent s'éprouver beaucoup à l'intérieur des collectifs de travail. Là encore, exemple d'une enseignante qui dit qu'en réunion, elle se positionne, elle prend la parole sur quelque chose et puis elle dit « Chez tous les autres, c'était silence radio et je regarde mes chaussures ». Donc je dirais que c'est presque ce qui m'a le plus touchée, c'est de voir effectivement qu'il n'y aurait pas de soutien, y compris de gens. Quand on est en relation interpersonnelle, ça se passe très bien, des gens que j'apprécie. Mais quand il faut soutenir le groupe, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, dernière voie plus collective dont on peut parler ici, c'est bien sûr la voie syndicale, puisque dans cette idée de redonner du sens au travail, le recours aux organisations syndicales n'est pas écarté par les enquêtés, en dépit d'un contexte où il y a des, comme ici comme ailleurs d'ailleurs, cette forme d'engagement apparaît en retrait. La majeure partie des personnes qu'on a rencontrées déclarent avoir contacté l'un des syndicats de l'établissement ou avoir été syndiqués ailleurs au cours de leur carrière professionnelle. Évidemment, avec des attentes qui sont très différenciées suivant les agents-agentes, suivant leur socialisation antérieure. Certaines envisagent la sollicitation syndicale sur un mode assez ponctuel pour un accompagnement ponctuel dans une situation personnelle. Et puis d'autres transforment ça ou s'engagent dans le militantisme sur le long terme et pour des motivations politiques. J'essaie d'aller plus vite. Avec des critiques aussi de l'action syndicale en parallèle, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a rencontré certaines personnes qui disent « Moi, je suis allée voir les syndicats et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. » De fait, elle estime ne pas pouvoir faire grand-chose de plus, être coincée un peu dans sa situation. Autre constat aussi, c'est des syndicats qui disent ouh là là, est-ce que vous êtes bien sûr de vouloir vous embarquer là-dedans, et qui finalement freinent en fait les enjeux de conflictualité, les possibilités de la conflictualité et les possibilités d'aménager leur travail. Et puis aussi à l'inverse, un syndicalisme qui peut redonner du sens au travail. Par exemple un cas dans nos enquêtés qui considère son engagement syndical comme un engagement politique et qui transforme, en tout cas le militantisme syndical contribue aussi à donner du sens en fait à la place à l'université, sachant pourtant que là, évidemment sur les enjeux de carrière ça facilite pas forcément la vie, mais il y voit un moyen de lutter contre les injustices en accompagnant les plus faibles ou les plus vulnérables dans l'établissement. Voilà un peu pour dresser le panorama des adaptations qu'on a repérées dans ces entretiens et de la diversité qu'elles prennent en fonction de la place dans la division du travail et de la socialisation antérieure. Peut-être, je ne vais pas vraiment conclure et puis laisser de la place s'il y a des questions. J'ai pris un peu trop de temps.
Non, t'inquiète. L'idée, c'était aussi... Pauline l'a dit, mais c'est vrai qu'on a une ambiance un peu nationale, même y compris scientifique, mais plutôt dans le médiatique, où il y a de la perte du sens au travail, il faut redonner du sens au travail. Donc il y a des gens qui s'érigent en prescripteurs ou prescriptrices de sens au travail, et on se demande bien à quel titre. Et donc on s'est dit aussi que nous, en tant qu'organisation syndicale, mais pas seulement, voilà, il y en a d'autres organes, mais bah, qu'on pouvait aussi participer à essayer de dire... quel sens le travail pouvait avoir. Est-ce que d'ailleurs il faut redonner du sens au travail et envisager d'arrêter le travail, enfin, c'est aussi une manière d'y donner un sens politique. Enfin bref, voilà, c'était aussi derrière cette interrogation de notre corpus d'entretien sur cette question de perte de sens au travail, voir ce qui s'y jouait et ce qui était ces stratégies, ces manières d'essayer de faire avec, c'est ce sur quoi on voulait effectivement insister. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques, des choses pas claires, ou des témoignages. Enfin, voilà, c'est un peu l'idée de prendre un peu de temps pour en parler ensemble.